Chapitre 7, où nous voyons un milliardaire américain, Jack Soret, jouer de son côté un rôle important dans le complot qu'il a imaginé. Quelques jours après les événements que nous venons de décrire sur Sir Jack Soret, qui était installé dans le meilleur hôtel de Rabat, capitale politique du Maroc, fumait tranquillement un gros cigare sur la terrasse de l'appartement qu'il occupait au premier étage de ce très moderne caravansérail. Il était 6 heures du soir. Le soleil commençait à décliner à l'horizon, et la chaleur, qui pendant toute la journée avait été très intense, commençait à diminuer considérablement. Peu à peu, la température se faisait exquise. Un vent léger, soufflant du nord, achevait de rafraîchir l'atmosphère. Jack Soret, depuis un moment déjà, avait laissé tomber à terre le journal qu'il tenait à la main. Il était plongé dans une rêverie profonde dont il ne s'interrompait que pour jeter un regard vers la porte-fenêtre de sa chambre qui était restée ouverte. Sans doute attendait-il quelqu'un, et même avec une certaine impatience, car au bout d'un quart d'heure environ, comme il terminait son cigare, il se leva, rentra chez lui d'un air quelque peu dépité. Alors il se mit à arpenter sa chambre à grands pas, tout en monologuant. Pourvu qu'au dernier moment, il ne se soit pas produit un accroc. Pourtant, Moser est un homme d'une habileté remarquable. Dès le premier jour, il était d'accord avec la tribu des Bien-Assis. À moins que Préfaille ne soit tombé malade, ce qui d'ailleurs me paraît invraisemblable, puisque, d'après les dernières nouvelles que j'ai reçues de lui, il se portait à merveille. Et alors, d'où provient ce retard? Il devrait être ici ce matin, à la première heure, et toujours rien. Un accident d'auto, bon, je le saurais déjà. Enfin, il y a 4 ans, mais c'est bien insupportable. Il serait malheureux que je perdisse la partie au moment où j'ai tous les atouts dans mon jeu. Il s'arrêta, se laissa tomber sur son siège, et tandis que l'expression de son visage se faisait dure et implacable, il murmura d'un ton féroce. Oh, il faudra bien que cette femme paie toutes les souffrances que j'endure à cause d'elle. Et de nouveau, il se laissa aller à la méditation profonde qui devait lui être particulièrement douloureuse. Car par instants, sa poitrine se gonflait, des plaintes sourdes jaillissaient de ses lèvres, comme s'il était torturé par un mal intérieur qui le dévorait, par une sorte d'incendie moral qu'il était impuissant à combattre. Mais soudain, il tressaillit. On avait frappé à sa porte. Tout de suite, il se redressa en lançant « Entrez !» La porte s'ouvrit. Un cri de désappointement lui échappa à la vue d'un homme court, trapu, le visage encadré d'une barbe noire, le regard faux, fuyant, et l'allure naturellement louche, obséquieuse et même servile. « Oh ça, Moser, vous revenez donc seul ?» fit-il, tandis que le nouvel arrivant, s'inclinant devant lui avec respect. « Non, prit Moser, je ne reviens pas seul. Le comte de Préfaille est également ici. » Et sans attendre la réponse de Moser, le milliardaire s'écria. « Mais vous avez cependant défendu expressément de le laisser seul. » « Non, mais il n'est pas seul. Avec qui donc ?»« Avec un homme à moi, le Caïd Moulay Ali, dont je réponds comme de moi-même. » Le négociateur ajouta, « J'aurais à vous parler auparavant, car il est indispensable que vous soyez au courant de l'état d'esprit du comte. »« Bon, vous avez raison, Moser, un mot auparavant. » « Êtes-vous bien sûr que Préfaille n'a pas télégraphié à sa femme sa mise en liberté ?»« J'en suis sûr. » »« Et que notre ami Moulay Ali saura exercer sur lui une surveillance assez efficace pour l'empêcher d'accomplir cet acte qui serait de nature à compromettre l'exécution de mon projet. J'en suis persuadé. Moulay Ali, elle a rusé incarnée. D'ailleurs, je crois que cette éventualité n'est pas à redouter. Ainsi que vous allez en juger vous-même par les renseignements que je vous apporte, la vérité est que Préfaille, qui se sent compromis, ne veut pas reparaître devant sa femme avant de vous avoir vu, de s'être justifié à vos yeux et d'avoir obtenu de vous que vous vous portiez garant de son honneur auprès de la comtesse. Tiens, tiens, souligna l'Américain, qui semblait très satisfait des nouvelles que lui donnait Moser. Puis il ajouta, continuez, c'est très intéressant. Le messager Jack Sorette poursuivit. Certes, monsieur de Préfaille, très entiché d'honneur, comme tous ses pareils, est fort marri à la pensée que le sien peut être sali. Mais ce qui l'épouvante encore bien davantage, c'est de passer aux yeux de sa femme pour un malhonnête homme, car il craint, en perdant son estime, de perdre aussi son amour. Jack Sorette observait. Oh oui, je vois qu'il est toujours aussi follement épris de sa Michelle. Et il ricana. Oh, nous allons mettre bon ordre à cela. Et maintenant, mon cher Moser, avant d'avoir avec ce cher ami Préfaille un indispensable entretien, je tiens à vous féliciter de la façon très habile dont vous êtes acquitté de la mission que je vous avais confiée. Tout en parlant, le milliardaire avait tiré de sa poche un carnet de chèques, et après avoir armé son stylo, il remplissait le libellé. Puis, détachant le feuillet, il le tendait à son interlocuteur en disant « Ceci à titre de prime. Je vous ferai observer que ce chèque n'est pas payable à la Banque de l'Orme et compagnie, mais à la Banque de France, qui est beaucoup plus sûre. » Moser se confondit en remerciements et empocha le chèque dont, grâce à un savant coup d'œil, il avait immédiatement déchiffré le montant qui s'élevait à la somme respectable de 1 000 $. Sir Jack Sorette reprenait. Bon, maintenant allez chercher Monsieur le comte de Préfaille et dites-lui que je l'attends. Moser, qui n'était autre qu'un métèque algérien prêt à toutes les besognes, s'empressa d'exécuter les ordres de celui qui venait de commencer à lui distribuer la manne qu'il escomptait de sa générosité. Demeuré seul, l'Américain, qui cependant n'avait guère l'habitude d'extérioriser ses sentiments, se mit à se frotter les mains avec ardeur. Et bien maintenant, murmura-t-il, il s'agit de frapper le coup décisif. S'il réussit à convaincre Perefaille, je réponds de tout. Je crois que je vais y parvenir assez facilement. Un homme amoureux est toujours prêt à devenir jaloux, et si haute que soit l'opinion qu'il ait de sa femme et de lui-même, je ne pense pas que celui-ci échappe à la règle. Il s'arrêta, on frappait à la porte. Entrez, fit-il. C'était le comte de Préfaille. Il était revêtu d'un costume marocain qui lui donnait tout à fait les allures d'un officier de Spahi, tant il le portait avec une naturelle élégance. Son visage bronzé était entouré d'une barbe noire qui ne parvenait pas à dissimuler les ravages que lui avait causés une longue et douloureuse captivité. Tout d'abord, l'Américain, qui s'apprêtait à jouer un jeu serré entre tous, feignit de ne pas le reconnaître. Le comte Henri s'avança vers lui, les mains tendues, et s'écria d'une voix tremblante d'émotion: « Oh, mon cher ami, laissez-moi vous remercier avant tout, puisque c'est à vous que je dois ma liberté. » Comment c'est vous, mon cher Préfaille? S'exclamait Jacques Sorette. Ce que vous êtes changé, oh mon pauvre ami, vous avez dû beaucoup souffrir de privations matérielles et aussi davantage peut-être de soucis moraux. Oui, cela, reprenait Préfaille d'une voix grave, ce sont les plus pénibles. Asseyez-vous donc, reprenait l'Américain en lui désignant un siège. Quand vous venez d'être rompu de fatigue. Oh, je me tiens encore, répliquait le gentilhomme, car moins que jamais, j'ai le droit de me laisser abattre. Je sais que vous êtes de courage même, affirmait hypocritement le milliardaire. Maintenant, je n'ai plus qu'un souci, c'est de me laver de toutes les accusations dont j'ai été l'objet vis-à-vis de bien d'autres. Jack Sorette faisait semblant d'éluder. Mon cher ami, nous avons le temps de parler de toutes ces choses. Je pense qu'à mon égard, vous devez être tout à fait tranquille. Le fait que je me suis occupé d'obtenir votre libération doit vous prouver que je vous considère toujours comme un homme de bonne foi, qui a pu commettre des imprudences, montrer trop confiant, un peu négligent, peut-être inexpérimenté à coup sûr, mais qui n'a trempé en rien dans les malhonnêtetés qui ont provoqué la déconfiture de la banque de l'Orme. Henri, dont les yeux s'étaient illuminés d'une flamme de joie, s'écriait avec élan. Oh, vous ne pouvez vous imaginer combien je suis heureux de vous entendre me parler ainsi. Oh, cela me réconforte à un point que je ne saurais vous dire. Aussi n'aurais-je pas trop de toute mon existence pour réparer les torts qu'involontairement je vous ai causés, en travaillant et en m'efforçant de vous désintéresser dans toute la mesure du possible. Ne parlons pas de cela, mon cher, reprenait l'Américain. Qu'est-ce que ce quelques millions volatilisés entre les mains de cette canaille de Delorme? Deux ou trois petits bouts de duvet que l'on a arrachés à mon aile. Or, je suis un oiseau dont les plumes repoussent très vite. Pour moi, je passe ces bagatelles au compte des profits et pertes. Qu'il en soit plus question entre nous.
Vous êtes d'une générosité incomparable, s'écriait monsieur le préfet.
Mais n'êtes-vous pas mon ami? Ripostait hypocritement l'Américain. Henri lui tendit loyalement la main. L'autre eut le cynisme, la lâcheté, l'infamie de la serrer avec une effusion qui n'était pas dans ses habitudes, et cela au moment où il s'apprêtait à lui porter le coup le plus cruel qui pût atteindre un homme. Sans s'en douter, Préfaille allait provoquer lui-même, en posant au milliardaire une question qui, depuis le début de l'entretien, lui brûlait les lèvres.
Y a-t-il longtemps que vous avez vu ma femme?
Fit-il avec émotion. Oui, un certain temps déjà, reprit Jack Sorette, en prenant un air volontairement embarrassé. Instantanément, un soupçon naquit dans l'esprit du comte, non point qu'il eût l'idée que sa femme s'était rendue indigne de son amour. Il la portait si haut dans son âme qu'il était incapable de laisser une telle pensée effleurer même son cerveau. Mais il se disait, envahi soudain par une irrésistible angoisse, me croirait-elle coupable? L'Américain, qui traitait cette situation comme une affaire dans laquelle il serait engagé à fond, se dit, il commence à mordre, attention. Et fort habilement, il se referma dans le silence, affectant de donner à son visage une expression de froideur significative. Aussitôt, monsieur de Préfaille s'écriait « Oh, j'ai l'impression, mon cher ami, que pendant mon absence, il s'est passé chez moi quelque chose de regrettable. »« mais non, » protestait mollement le misérable. « Non, je vous en prie, mon cher ami, » reprenait Henri d'un ton suppliant. Ne me cachez rien, dites-moi toute la vérité, si pénible soit-elle pour moi. Michel m'a cru plus coupable que je ne le suis en réalité. Bon Dieu, oui, sans doute, mais il ne faut rien exagérer. Ah, voilà ce que je craignais, soulignait le malheureux Henri. Pourtant, Michel devrait bien me connaître. Je m'étonne qu'elle ait pu me croire coupable d'une action malhonnête et même d'une simple faiblesse. Elle ne m'aimait donc pas autant que j'en étais persuadé. Oh, Sorette, mon ami, si je devais perdre sa tendresse, cela serait trop effroyable. Et combien je regretterais que vous ne m'eussiez pas laissé entre les mains de ce Marocain. Je vous l'ai déjà dit, mon cher, reprenait l'Américain, qui poursuivait implacablement le plan qu'il s'était tracé. N'exagérons rien. J'ai toujours pour principe de dire la vérité. Vous m'interrogez, je suis bien obligé de vous répondre et de vous déclarer que
j'ai cru m'apercevoir à certains indices que, évidemment, Madame de Préfailles avait été influencée par quelques certains propos que des gens mal intentionnés s'étaient intéressés de lui donner sur votre compte, et encore davantage par les entrefilets venimeux de petits journaux que, naturellement, vos ennemis et les siens se sont empressés de lui faire parvenir. Cela n'eût été rien, je suis sûr qu'elle se fût vite ressaisie et qu'elle eût dédaigneusement refusé ces attaques directes et indirectes dont vous étiez l'objet, si malheureusement une plainte n'avait pas été portée contre vous. Une plainte ? S'écria Préfaille en pâlissant. Mais qui donc a osé ? Un client de la banque auquel on n'avait pas restitué son dépôt. À ce moment-là, j'étais absent de Paris, je m'étais rendu justement à Marseille pour m'occuper de votre libération. Dès que j'ai appris cette fâcheuse nouvelle, je me suis empressé de rentrer à Paris afin de désintéresser ce créancier qui a immédiatement retiré sa plainte. J'ai ensuite fait le nécessaire pour qu'il n'y en eût pas d'autre. Oh, vous êtes vraiment trop bon. Hélas, le coup était porté et votre femme a quitté votre maison. Elle est allée vivre auprès de sa mère. J'ai voulu lui rendre visite pour plaider votre cause, pour la convaincre que vous étiez toujours digne d'elle. Mais elle a refusé de me recevoir. J'ignore pourquoi. Je vous avouerai franchement, puisque vous exigez de moi toute la vérité, que je ne suis pas sans éprouver une certaine crainte. Il s'arrêta, prit un air mystérieux. Et quelle crainte ? Interrogea âprement le comte de Préfailles. Bon, ce n'est qu'une simple hypothèse. Et puis laissons donc tout cela tranquille. Vous avez encore plus besoin de repos moral que de repos physique. Nous reprendrons cet entretien demain.
Oh non, non, protestait Henri avec force. Vous m'en avez trop dit, mon ami, pour ne pas aller jusqu'au bout. Depuis un moment déjà, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose, que vous cherchez à me ménager et qu'il s'est passé, pendant mon absence, un événement terrible, oui, tellement terrible que vous refusez à me révéler.
Mais non, mon ami, ne vous tourmentez pas ainsi.
Si, si, j'en suis sûr, je le lis sur votre visage. Michel ne veut plus me voir. Elle me rejette de son existence, elle me renie. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Avec un raffinement de duplicité, l'Américain déclarait. Non, 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 ce n'est pas cela.
Alors ?
Mais je voulais simplement vous donner à entendre que je redoutais que Madame de Préfailles n'eût rencontré sur sa route un mauvais conseiller qui, profitant de son désarroi, ait réussi à lui monter la tête contre vous. Je ne puis expliquer autrement son attitude à mon égard.
En effet, appuyait le comte, elle m'avait toujours parlé de vous dans les meilleurs termes. Elle vous témoignait à la fois beaucoup de gratitude, d'amitié, de confiance. Il faut évidemment, pour qu'elle ait refusé de vous voir, que quelqu'un lui ait suggéré. Cela ne peut pas venir d'elle seule, mais qui ? Vous n'avez aucun soupçon ?
L'Américain eut un haussement d'épaule évasif qui n'était ni une négation ni une approbation. Ce geste acheva de semer l'alarme dans le cœur de M. de Préfailles, qui reprit d'une voix haletante. « Mon ami, je vous en supplie. Quoi que vous ayez à me dire, ne me laissez pas plus longtemps dans l'inquiétude, ni dans l'incertitude. À vos réticences, je crois comprendre qu'il s'agit de quelque chose de très grave. »« De très grave, en effet, appuyait le milliardaire.
Michel m'aurait-elle trahi ?»«
Le pas dit cela. Mais vous le pensez. » Je ne devine rien qu'à votre attitude, aux intonations de votre voix, à l'expression de votre regard. Mais c'est effroyable. Elle que je considérais comme la plus pure des femmes
et dont les dernières lettres étaient encore si vibrantes dans l'amour qui faisait l'orgueil et la raison d'être de ma vie. Non, non, il n'est pas possible qu'elle m'ait oublié si vite, qu'elle n'ait pas joué ainsi la foi donnée. Elle n'était pas femme à céder à un mouvement de découragement, de dépit, d'indignation. On a dû vous raconter des mensonges, des calomnies, mon cher ami, car je ne peux pas me figurer un seul instant que ma femme soit coupable. L'Américain gardait un silence qui était beaucoup plus significatif que bien des paroles. N'était-il pas un désaveu complet de tout ce que venait de dire M. de Préfailles? Ne confirmait-il pas d'une façon saisissante cette hypothèse de trahison que le comte cherchait à écarter de lui? Il y eut quelques secondes d'émotion intense et tragique entre toutes. Mais ce silence ne pouvait se prolonger. Ce fut M. de Préfailles qui le rompit le premier en disant « Mais je le vois, c'est en vain que je cherche à me raccrocher à une vaine espérance. Je crois vous connaître assez pour être sûr que si au moment où je retrouve ma liberté, vous avez cru devoir m'informer de la nouvelle catastrophe qui s'abat sur moi, c'est que vous aviez entre les mains toutes les preuves de mon infortune. « Hélas, oui !» répliquait Jacques Sorette. Et d'un ton hypocritement compatissant, il reprit « J'ai longtemps hésité à vous parler ainsi, et je me suis même demandé si j'aurais le courage de vous infliger un chagrin qui dépasse de beaucoup tous ceux que vous avez déjà supportés. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que j'étais trop votre ami pour me taire, et que mon devoir, au contraire, était de vous apprendre avec tous les ménagements désirables. Que votre compagne était devenue indigne de vous. Les poings crispés, les narines frémissantes, agitées d'un tremblement nerveux, M. de Préfailles martelait. « Elle a un amant, n'est-ce pas ?»« Oui, » répliquait l'Américain. « Elle a un amant. »« Vous le connaissez ?» « Je le connais. Son nom, le prince Dimitri Selviersov. Oh, il me semble que j'ai entendu prononcer ce nom. Oui, c'est celui d'un grand seigneur russe qui, ayant quitté son pays à temps pour échapper aux bolcheviks et réussi à sauver une partie de son immense fortune, est venu habiter Paris. » Tout en cherchant à dominer sa douleur et sa colère, M. de Préfailles reprenait. Il n'était pas nos relations. Je ne me souviens même pas l'avoir rencontré dans le monde. Cela n'a rien de surprenant, déclarait Jacques Sorette. Dimitri, en effet, a l'habitude de fréquenter beaucoup plus les grands cercles et même les tripots de second ordre que les salons où l'on y rencontre l'élite de la société parisienne. Jusqu'alors, cette espèce de Don Juan du Nord s'était contenté d'exercer ses talents de séducteur dans le demi-monde. Mais quelle abomination! Mais quel écœurement! Scandait le comte Sanry. Puis vivement, il demanda « Mais savez-vous comment ma femme a connu cet individu ?» « Je n'ai à ce sujet que des données assez vagues, » répondit le milliardaire. « Je crois qu'ils se sont rencontrés chez des amis communs, dont je n'ai pas le nom. Mais si cela peut vous intéresser, je puis me renseigner à ce sujet d'une façon plus précise. »« À quoi bon ?» s'exclamait M. de Préfailles. « Maintenant nous nous trouvons devant un fait aussi brutal qu'irréparable. » Quand vous êtes sûr, bien sûr, mon cher ami, que Michel est la maîtresse de ce russe ? » Traîtreusement, Jack Sorrent déclarait « Croyez-vous donc que, si je n'avais que des soupçons, j'aurais eu la cruauté de vous faire souffrir de la sorte ? Malheureusement, je vous le répète, il n'y a aucune espèce de doute à avoir à ce sujet. » Et voilà pourquoi, avant tout, j'ai voulu vous mettre au courant de l'infidélité de Madame de Préfailles, afin que vous puissiez prendre contre elle toutes les mesures de rigueur que vous jugerez utiles, Et cela avant qu'elle ne soit prévenue, et par conséquent, mise sur ses gardes. Dans ces conditions, si vous me garantissez que vous serez patient, que vous saurez modérer votre juste colère et que par aucune manifestation imprudente, vous ne risquerez d'éveiller l'attention des coupables, je me fais fort, moi, de vous les faire surprendre tous les deux et d'empêcher ainsi toute espèce d'équivoque. Nous allons donc éviter avec le plus grand soin de répandre le bruit de votre libération. Nous rentrerons ensuite à Paris, tous les deux, sous un déguisement tel qu'il sera impossible de nous reconnaître. Là, je vous conduirai moi-même auprès de ceux qui vous trahissent, afin que vous puissiez les confondre l'un comme l'autre. À cela, je mets une condition. C'est que vous allez me donner votre parole de gentleman, que vous ne vous livrerez à aucun acte de violence, ni envers votre femme, ni envers son complice. Le reste vous regarde. Vous appartenez, madame de Fréfailles et vous, à une religion qui n'admet pas le divorce. Vous donnerez donc à cette affaire la solution qui vous conviendra le mieux. Je ne dis pas à vos intérêts, mais à vos principes. Je ne me suis jamais mêlé des cas de conscience. D'un ton plein d'amertume, le comte Henri reprenait. Oh, la solution est toute trouvée. Elle n'est pas compliquée. Ainsi que vous le demandez, je ne châtierai personne moi-même. Je ne me laisserai pas aller à un acte de violence qui l'amènerait en cour d'assises, où d'ailleurs je serai acquitté, avec la suite d'audiences scandaleuses et de plaidoiries retentissantes. Non, les coupables, tels Michel et son amant, portant d'eux-mêmes la peine de leur faute. Je laisse à Dieu le soin de l'expiation. Mais moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi donc? On ne me l'en demande pas, mon ami. D'ailleurs, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas déjà deviné. Vous voulez vous tuer? Fit gravement l'Américain. Non, mourir, c'est pas la même chose. Mais mourir, comment cela? En m'expatriant dans des contrées d'où l'on ne revient jamais. Il en est encore, quoi qu'on dise, et dans le désarroi où je me trouve, dans un désastre qui désormais rien ne peut réparer, j'envisage froidement et sans regret ma disparition de ce monde dans un pays désert, loin de tout, le dos à la terre et la face au ciel. Il faut pas parler ainsi, décrétait le milliardaire. Il faut surtout ne pas penser cela et réagir au contraire. Je n'ai jamais compris le suicide que dans un seul cas. C'est lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable et qu'on devient insupportable aux autres, et odieux à soi-même et inutile à tous. Alors, on en finit tout de suite, et c'est une délivrance pour tout le monde. Mais ce n'est pas votre cas. Vous êtes jeune, intelligent, plein de vitalité, d'allant, de cran et d'énergie. Et parce que vous avez été trompé dans votre amour, votre supprimerez d'un seul coup cette force, qui n'appartient plus qu'à vous, et peut devenir un rouage important de l'activité humaine. Monsieur de Préfailles, l'air abattu, découragé, écoutait l'Américain, qui poursuivait d'un ton plein d'autorité et d'énergie. En Amérique, nous avons toujours eu pour principe de considérer les hommes qui se suicidaient comme des fous. Que ce soit par amour ou à la suite de pertes d'argent, nous ne mettons pas cette solution au point de vue philosophique, mais aussi bien qu'au point de vue purement pratique. Et c'est nous qui avons raison. Certes, sous mes apparences de froideur et d'insensibilité, je ne suis pas incapable d'émotion. Je vous dirais même qu'au cours de ma carrière de businessman, j'ai eu non seulement à lutter à maintes reprises contre certaines impulsions qui auraient pu me faire faire fausse route, mais encore contre les attendrissements d'un cœur dont j'ai dû d'une poigne d'acier comprimer les battements
Et cela plus souvent peut-être que vous ne vous l'imaginez. Je ne comprends pas très bien que vous soyez ulcéré à la pensée que cette femme, en qui vous croyez encore plus qu'en vous-même, s'est si facilement détachée de vous et vous a trompé de la façon la plus misérable. Comment vous fuiriez l'existence parce que vous êtes malheureux? Quelle aberration! C'est au contraire lorsque la vie se montre extrêmement dure que l'on doit la plus fortement s'attacher à elle. Quand cela ne serait que pour prendre sa revanche contre le mal dont on souffre et contre ceux qui vous l'ont infligé. Les plus belles représailles que vous puissiez exercer contre elle et son complice ne consistent pas à leur faire la guerre, mais à leur prouver que vous êtes parfaitement capable de reconquérir par ailleurs le bonheur qu'elles vous ont dérobé. Bon, je conclus car le moment n'est plus aux discours mais aux actes. Si vous acceptez mes directives, c'est-à-dire si vous renoncez aux vengeances stériles, et si, vous ressaisissant entièrement, vous consentez à refaire votre vie, je suis avec vous. J'assainis cette affaire de la Banque de l'Orme en désintéressant les créanciers, ce qui aura pour résultat d'enrayer l'instruction et de dégager votre responsabilité. Cela fait, je mets ensuite à votre disposition tous les capitaux nécessaires pour une affaire nouvelle, que je suis tout prêt à diriger effectivement, si vous le jugez utile. Voilà les offres que je vous fais carrément, sincèrement, à vous d'y répondre. Mon cher ami, répliquait M. de Préfailles, oh, je ne puis vous dire à quel point votre affection et votre dévouement me touchent. Tout autre que vous m'eût accablé de ses reproches, abandonné à mon malheureux sort. Et au lieu de cela, vous me tendez la main, vous me criez courage, vous m'invitez à vivre, vous me faites entrevoir la possibilité d'être de nouveau heureux. Oh, je ne trouve pas de terme assez fort pour vous en exprimer ma profonde reconnaissance. Alors, vous acceptez? Interrogea le milliardaire. Oui, j'accepte. Bien, vous m'auriez enchanté. Je me livre donc à vous, pieds et poings liés. Parlez, et je vous obéirai. Jack Sorette reprenait. Une liquidation générale du passé s'impose. La Banque de l'Orme, ainsi que je viens de vous le dire, j'en fais mon affaire. Vous, par exemple, devrez vous arranger de façon à rompre avec votre femme. Selon moi, voici comment devront se passer les choses. Si vous vous sentez assez fort pour partir tout de suite, nous allons prendre le prochain bateau pour Bordeaux. De là, incognito, nous gagnerons Paris, et alors là, vous n'aurez à vous occuper de rien. Il vous suffira de vous rendre où je vous dirai, d'aller, et, comme on dit vulgairement, l'incident sera clos. Monsieur de Préfailles, qui n'avait plus la force de lutter, déclarait « Oh, je m'en remets entièrement à vous. Nous partirons ce soir. » Étendant la main à son interlocuteur, il fit simplement « Merci. » L'Américain reprenait « Vous m'en voulez pas trop de vous avoir fait beaucoup de souffrir. » Le mari de Michel répliquait « Pas plus qu'un chirurgien. » qui pour me sauver la vie m'aurait tenaillé la chair. Très satisfait de cette entrevue, le milliardaire fit « Je savais que vous étiez un homme remarquablement intelligent et qu'il y avait en vous beaucoup de ressources, beaucoup d'étoffes. Allons, c'est un mauvais moment à passer. Comme vous le dites si bien, c'est une opération à supporter, mais je suis sûr, vous n'en garderez même pas longtemps la cicatrice. » Et il ajouta, rien que pour lui-même, « Maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir me venger. » Chapitre 8 Le flagrant délit. De son côté, la baronne Merloup s'était pas restée inactive. Conformément à ce qu'elle avait déclaré au prince Dimitri,
Elle s'était occupée de lui trouver un petit hôtel particulier où il pourrait s'installer avec Juliette. Cette demeure se trouvait dans un quartier neuf de Suresnes, peu fréquenté par les Parisiens, et où les deux amoureux ne risquaient pas de fâcheuses rencontres. Juliette, obéissant fidèlement aux instructions qu'elle avait reçues de la prêteuse, s'était bien gardée de commettre la moindre imprudence. Pendant les quelques jours qu'elle avait passés à l'hôtel de Versailles où Dimitri l'avait emmenée, elle s'était confinée dans son appartement où elle avait pris ses repas et elle ne s'était montrée à personne. Nous devons dire que le Russe, qui trouvait cette belle fille fort à son goût, s'était évertué à lui adoucir le plus possible sa captivité volontaire. C'était d'ailleurs un compagnon charmant, très gai, très séduisant, très homme du monde et dont la môme aux yeux bleus avait d'autant plus apprécié les qualités qu'elle n'avait pas été habituée à tant d'égards, d'amabilité et d'empressement de la part de ses amis de rencontre. Certes, elle n'éprouvait aucune espèce d'amour pour le prince Seliverstoff. L'amour, ainsi qu'elle le disait souvent avec une certaine mélancolie, elle l'avait rayé de son existence. Elle ne voulait se créer aucune attache. Et puis, le triste métier qu'elle avait adopté par veulerie, par paresse, par manque de réaction, l'avait tellement dégoûtée qu'elle ne rêvait que d'une existence qu'elle passerait seule, en face de la nature, qu'elle s'était prise à aimer tout à coup avec une sorte d'âpreté et de ferveur mystique. Elle aspirait au moment où, ayant joué avec succès son rôle dans la comédie que la baronne Merloux était chargée de mettre en scène, elle toucherait la forte somme qui lui permettrait de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'acheter une petite maison à la campagne dans un coin retiré et d'y mener l'existence paisible d'une modeste rentière. Elle avait donc accepté, sans la moindre hésitation, de se rendre dans ce pavillon de Suresnes, fort coquettement aménagé et meublé avec un certain goût. Il appartenait à une comédienne qui s'était retirée là avec un ami afin d'y filer le parfait amour. Mais, ainsi que cela se passe très souvent en pareil cas, c'était le parfait amour qui avait filé. Au bout de quelques semaines, la comédienne s'était aperçue que la tendresse qu'elle éprouvait pour son jeune partenaire n'était nullement payée de retour, puisque celui-ci la trompait frontalement avec une de ses camarades. Alors elle avait pris en horreur ce nid déserté par l'infidèle et elle était revenue à Paris après avoir chargé une agence locale de vendre ou de louer, meublé ou non, ce coin où elle avait tant espéré d'être heureuse et qui n'avait été que le témoin de la plus cruelle des déceptions. La baronne Merloux, qui était restée en relation directe avec Jacques Sorette, s'était empressé de donner à ses deux complices les instructions les plus détaillées, et il avait été convenu que lorsque M. de Préfailles se présenterait à l'hôtel, une domestique préalablement stylée l'introduirait dans le salon et irait prévenir le prince Dimitri que quelqu'un le demandait. Immédiatement, M. de Préfailles monterait au premier étage, ouvrirait la première porte à droite qui donnait dans une chambre à coucher, et se trouverait en présence du sosie de sa femme, assis sur un divan et la tête appuyée contre la poitrine du prince. À sa vue, Juliette se lèverait, s'enfuirait dans la pièce voisine et s'y enfermerait avec son complice. Tous deux quitteraient la maison par une autre issue et le tour serait joué. « Tout cela, » avait déclaré le Russe, « me semble fort bien combiné. » Et il ajouta, « Pour être bien sûr de nos mouvements, nous n'aurons qu'à répéter plusieurs fois la scène et tout se passera à merveille. » Ainsi qu'on le désire, M. Préfaille sera convaincu que je suis l'amant de sa femme. Tu vas ensuite me chercher querelle, je suis son homme. À l'épée au pistolet, je crains personne. » Et il ajouta avec un sourire sinistre, « J'ai déjà jalonné ma route de plusieurs victimes. La baronne Merloux reprenait. Oh, les choses n'iront certainement pas jusque-là, puisqu'il a été entendu et qu'il est compris dans les conditions qu'aussitôt le flagrant délit constaté, vous disparaîtrez avec cette charmante enfant ensemble, ou chacun de son côté, comme il vous plaira, mais qu'en tout cas vous mettrez une distance assez considérable entre la France et vous. Car il est important que l'on ne vous révèle, revoie ni l'un ni l'autre à Paris, du moins pendant quelque temps. Si je vous rappelle cela, c'est afin que vous ne l'oubliez pas. Julienne déclarait « Soyez tranquille, baronne. En ce qui me concerne, je suis bien décidée à m'isoler dans une retraite où personne ne me découvrira. Mais, par exemple, il me vient une objection. Laquelle ? Lorsque M. de Préfailles va se retrouver en face de sa femme, celle-ci va lui jurer ses grands dieux qu'elle est innocente et, entre nous, elle n'aura pas tout à fait tort. » Madame Merloux, qui semblait très sûre de la suite des événements, répliquait « Mais comment voulez-vous que son mari la croie, puisqu'il sera persuadé l'avoir vue dans les bras du prince ?»« Oui, mais, rétorquait la môme aux yeux bleus, si elle a un alibi, et si elle peut prouver que pendant que M. de Préfailles se trouvait à Suresnes, elle était ailleurs, toute votre combinaison s'écroulera comme un château de cartes. » « Oh, ça !» s'écria l'entremetteuse. « Vous figurez que nous n'avons pas songé à cela ? Mais toutes nos précautions sont prises, et l'habit libyque invoquera Madame de Préfailles ne pourra que se retourner contre elle. Nous avons plus d'un tour dans notre sac. Et maintenant, mes petits-enfants, je vous quitte. J'attends un télégramme qui doit me fixer sur la date du retour de Monsieur de Préfailles. En attendant, restez bien tranquilles, ici. Tâchez de ne pas trop vous ennuyer. Oh, je crois d'ailleurs que vous avez la TSF, et même le théâtrophone. » Et avec un sourire entendu, elle ajouta. « D'ailleurs, deux êtres aussi jeunes et aussi beaux que vous ne doivent jamais s'ennuyer d'y trouver le temps long. » Et tout en clignant les yeux d'une façon équivoque, la baronne Merloux ajouta. « Vous savez de quoi vous occuper. » Maintenant que nos lectrices et nos lecteurs sont au courant du scénario construit en collaboration par Jacques Sorette et par la baronne Merloux, nous allons voir comment les artistes, chargés d'en interpréter les différents rôles, allaient l'exécuter. Ainsi qu'avait décidé le milliardaire, celui-ci quittait le soir même Rabat avec le comte de Préfailles. Tous deux avaient pris soin de se camoufler soigneusement, et hâtons-nous de le dire, ils étaient complètement méconnaissables. Après avoir gagné Casablanca en compagnie de l'Algérien Moser, ils prirent place sur un avion qui les conduisit jusqu'à l'aérodrome de Toulouse, où ils débarquèrent sans le moindre anicroche. De cette ville, Jacques Sorette envoya à la baronne Merloux un télégramme chiffré qui contenait, avec l'heure de son arrivée, ses dernières instructions, et le même soir, toujours camouflé ainsi que son compagnon, ils prenaient avec celui-ci le rapide de Paris, où ils arrivaient le lendemain dans la matinée. Le milliardaire emmena le comte dans un hôtel de la rue de Rivoli, où il avait fait retenir un appartement, et il lui dit « Je vais m'occuper de tout, attendez-moi ici. » « Ne bougez pas, ne vous montrez pas, soyez patient. D'ailleurs, mon absence sera de brève durée, et je crois pouvoir vous prévenir, sans crainte de me tromper, que dès ce soir, nous en aurons terminé avec cette affaire dont vous devez avoir hâte d'être débarrassé. Surtout, pas de sentimentalité, pas de faiblesse. Conduisez-vous en brave, ainsi que vous me l'avez promis, et ne vous laissez pas attendrir par les supplications et les larmes d'une femme, ou plutôt d'une misérable qui ne mérite de votre part aucune pitié. » 2 heures après, l'Américain revenait, annonçant à de Préfailles. « J'ai vu la personne que j'avais chargée de suivre les coupables. Ce soir, vous n'aurez qu'à vous rendre à Suresnes, 25 avenue de la Belle Gabrielle. Vous vous trouverez en présence d'un petit hôtel particulier. Vous sonnerez, on vous ouvrira et vous direz à la femme de chambre qui se présentera à vous que vous désirez parler au prince Dimitri Silverstov pour une affaire extrêmement urgente. Et si celui-ci vous fait demander des explications, vous répondrez que vous lui apportez les papiers de famille qui ne peuvent être remis qu'à lui seul. Alors, tandis que la femme de chambre s'en ira aux ordres, vous monterez derrière elle, vous ouvrirez une porte que vous trouverez à votre droite sur le palier du premier étage, vous entrerez sans frapper, et là, alors, vous aurez sous les yeux un spectacle qui vous édifiera entièrement sur l'infidélité de votre épouse. Allez, maintenant, nous allons déjeuner. Ensuite, si vous le voulez, nous parlerons de cette nouvelle affaire pour laquelle je suis tout disposé à vous commanditer. Nous irons faire un tour en auto au bois de Boulogne et nous irons paisiblement dîner dans un restaurant du bois. Je vous accompagnerai ensuite jusqu'à Suresnes et je vous attendrai discrètement aux alentours de la maison en question. Ce programme vous convient-il ?
Il me convient, déclarait M. de Préfailles d'un air sombre.
Et tous deux passèrent dans la salle à manger voisine, où un succulent repas les attendait. Vers 2 heures de l'après-midi, Michel de Préfailles se disposait à sortir avec sa mère, qui depuis quelques jours, se sentant un peu mieux, voulait profiter du beau temps pour se rendre au jardin du Luxembourg en compagnie de sa fille, lorsqu'on apporta à celle-ci une lettre sur laquelle, en haut de l'adresse, ces mots étaient tracés « Urgent et personnel ». Michel la décacheta aussitôt et lut ce qui suit. « Madame, je suis à même de pouvoir vous donner des renseignements extrêmement intéressants au sujet de votre mari, monsieur le comte Henri de Préfailles. Je suis en effet le père d'un des policiers qui a été assassiné par les Benassi pendant la nuit où monsieur de Préfailles a été enlevé et emmené en captivité. Malheureusement, je suis très âgé et impotent et je ne puis pas me rendre auprès de vous. Mais si vous vouliez me faire l'honneur de me rendre visite, je me ferai un devoir non seulement de vous dire ce que je sais, mais de vous mettre en présence d'un des amis de mon fils, qui lui en sait encore plus long que moi, et serait tout disposé à partir au besoin pour le Maroc à la recherche de monsieur le comte. Serait-ce trop vous demander de venir ce soir chez moi entre 9h30 et 10h? Il est indispensable, pour des raisons que je vous expliquerai de vive voix, que cet entretien ait lieu chez moi et sans témoin. Il y a en effet dans cette affaire des dessous fort graves et qu'il n'est pas en mon pouvoir de vous divulguer. Seule la personne en question est à même de le faire, mais elle a décidé qu'elle ne parlerait que devant moi et seulement chez moi. Mon nom d'ailleurs et mon passé sont faits pour vous donner toute confiance. Je suis un ancien inspecteur de police qui a pris sa retraite après de longs services et je suis chevalier de la Légion d'honneur et je suis à même de vous fournir toutes les références que vous êtes en droit d'exiger de moi. Veuillez m'excuser pour tout ce mystère. Mais il est indispensable, et si, comme j'espère, vous vous rendez ce soir chez moi et que vous aurez appris toute la vérité, vous ne serez pas étonné de toutes les précautions que je suis obligé de prendre. Veuillez agréer, madame, l'hommage de mon profond respect et de mon sincère dévouement. Jean Douarier, 37 rue du Bac, Suresnes. Inutile de me prévenir si vous venez. Je vous attendrai ce soir à l'heure dite, mais je dois vous avertir que demain, il serait peut-être trop tard. Madame de Préfailles était bien loin de soupçonner que cette lettre n'était qu'un piège qu'on lui tendait. Toujours torturé par la pensée que son mari était prisonnier d'une tribu de dissidents marocains, comment aurait-elle hésité un seul instant à accomplir une démarche qui pouvait avoir pour résultat de lui rendre quelque espérance? Mais, afin de ne pas tourmenter sa mère et de ne pas lui causer une émotion qui aurait pu compromettre de nouveau sa santé si chancelante, elle résolut de ne pas lui communiquer ce message. Il serait toujours temps de lui dire la vérité. Si elle rapportait de sa visite à cet ancien inspecteur de la sûreté des certitudes au sujet de la situation présente de son mari. Elle serra donc précieusement cette lettre dans un des tiroirs de son secrétaire, puis elle s'en fit retrouver sa mère, et toutes deux partirent pour la promenade projetée. Madame de Montgobert, remarquant que sa fille était moins triste que de coutume, s'en réjouit intérieurement, mais elle n'osa pas l'interroger, tant elle avait peur de mettre une ombre sur un futur furtif rayon de soleil qui commençait à éclairer son âme. Elles prirent un taxi, car depuis la ruine de son mari, Michel avait complètement réduit son train d'existence et vivait le plus modestement possible avec sa mère, dont les revenus étaient d'ailleurs, ainsi qu'on l'a vu plus haut, assez strictement limités. Elles s'en furent s'installer toutes deux sur un banc et y passèrent une bonne heure. Madame de Montgobert évitait toujours de parler la première à sa fille du malheur qui avait bouleversé sa vie, et comme, de son côté, Michel s'évertuait à éviter à sa mère toute émotion, il était fort rare qu'elle s'entretinsse du disparu. Mais ce jour-là, malgré tous ses efforts pour dissimuler à la marquise le vague espoir qu'elle avait reçu quelques instants auparavant, elle ne put s'empêcher de murmurer « Mon pauvre Henri, quand je pense que nous sommes là toutes deux dans ce beau coin de Paris, entourés d'enfants qui gambadent et qui jouent, et qui lui se trouve seul au milieu de ces brigands, marocain qui le garde en otage. Mon cœur saigne douloureusement. Il faut qu'il y ait en moi la conviction bien arrêtée que je le reverrai un jour pour que je ne me laisse pas aller, ma pauvre maman, à une incurable tristesse. » Madame de Montgobert déclarait « Ma pauvre enfant, si tu savais combien je compatis à ta peine. Je le sais, maman. Mais on voudrait l'augmenter encore, car ne suis-je pas là, au contraire, pour te consoler, pour affermir ton esprit chaque fois que je te vois chanceler. Cependant, puisque tu me parles de lui, il faut bien que je te dise, moi aussi, ce que je pense. » Oh, oui, parler. Je suis surprise que ces Marocains, qui l'ont certainement enlevé Henri que pour obtenir de lui une forte rançon, ne se sont pas encore manifestés, nous faisant parvenir des offres. » Madame de Frévailles répondait ben, « Sans doute ont-ils appris que nous étions ruinés. » « Autre chose, » poursuivait Madame de Montgobert, « je suis non moins étonné que les recherches qui ont été ordonnées par le gouvernement général du Maroc aient n'ait donné aucun résultat. »
Cela, répliquait la jeune femme, n'a pourtant rien de bien extraordinaire. Sans doute les ravisseurs d'Henri ont dû l'entraîner fort loin, et le cachent-ils soigneusement aux yeux de tous. Mais malgré cela, j'ai bon espoir, et quelque chose me dit que d'ici peu, nous aurons de ses nouvelles.
Madame de Montgobert reprenait. « J'ai lu dans les journaux que Sir Jacques Sorret était rendu au Maroc. Peut-être s'occupe-t-il de son côté de faire remettre en liberté ton mari. » «
Moi, je n'en sais rien, » répliquait Michel, qui au nom de Jacques Sorret avait légèrement tressailli. Mais, dissimulant le trouble que lui causaient les terribles souvenirs que sa mère venait inconsciemment de réveiller en elle,
La jeune femme s'empressait d'ajouter. C'est fort possible, après tout. Enfin, quoi qu'il arrive, si Henri revient, il me trouvera à ses côtés pour faire face aux attaques dont il a été l'objet pendant son absence. Tu as toujours confiance en lui, n'est-ce pas? Oh oui, mère. Car plus je réfléchis, plus j'en arrive à me convaincre qu'il est absolument innocent et qu'il a été victime, non pas ainsi que certains de ses amis semblent croire, de son inexpérience, de sa légèreté et de son audace, mais plutôt d'un véritable complot ourdi contre lui. Voilà pourquoi je lui reste à jamais fidèle, et je suis décidé, même s'il ne revient jamais, à défendre sa mémoire et à le préserver de toute flétrissure. « Mon cher enfant, reprenait Madame de Montgobert, je ne puis qu'admirer un si grand amour et te féliciter de ta si noble et courageuse attitude. Mais je crains bien, hélas, que tu te heurtes à des difficultés terribles. Une femme seule, que peut-elle contre le malheur ?»
Fièrement, Michel ripostait.
« Mais tout, quand elle est soutenue par l'amour. » Et ce que Madame de Montgobert ne disait pas à sa fille, c'est qu'elle était beaucoup moins qu'elle persuadée de l'innocence de son gendre. Elle en était même arrivée, peu à peu, à se convaincre que la disparition d'Henri avait été volontaire et que cette histoire d'enlèvement par des dissidents marocains avait été inventée par lui de toutes pièces afin de se soustraire aux recherches de la police ou tout au moins aux conséquences d'une instruction qui pouvait fort mal tourner pour lui. Mais la bonne vieille dame, habituée à souffrir en silence, s'était bien gardée de laisser entrevoir un seul instant à Michel ses secrètes pensées. Pour rien au monde, elle n'eût voulu ajouter à sa peine. Aussi affecta-t-elle d'abonder sérieusement dans ses vues et de l'encourager dans un héroïsme conjugal qu'intérieurement elle considérait comme inutile. Réconfortée par les confidences qu'elle venait de faire à sa mère et convaincue que celle-ci l'approuvait entièrement, Michel se laissait aller aux plus grandes espérances. Lorsqu'elle fut rentrée chez elle avec la marquise, elle n'eut plus qu'une hâte, c'est que l'heure arriva où elle pourrait partir pour Suresnes. Jamais le temps ne lui parut plus long. Jamais l'expression du grand poète allemand Harry Heine ne lui parut plus vraie, que les heures sont paresseuses. Ainsi que chaque soir, vers 6 heures, elle assistait au repas très frugal que sa mère prenait dans sa chambre. Vers 7 heures, elle dîna rapidement, seule dans la salle à manger. Puis elle se retira dans sa chambre, s'habilla très simplement et dit à sa femme de chambre « Je vais passer la soirée chez des amis. Veuillez bien sur ma mère et si elle me réclame, dites-lui que je ne tarderai pas à rentrer. Mais madame la marquise demandera peut-être où se trouve madame, » observait la camériste. Michel réfléchit un instant, puis elle répondit « Bien, vous direz que je suis allé voir nos amis d'Albaren, dont la petite fille est en ce moment très souffrante, et vous ajouterez que si je n'ai pas voulu aller lui souhaiter le bonsoir, c'est que, sachant qu'elle s'endort presque aussitôt son dîner, je n'ai pas voulu la réveiller, de crainte qu'il lui fût impossible ensuite de se rendormir. « Bien, madame la comtesse, » répondit la femme de chambre. Comme il était 8 heures du soir et qu'il faisait un temps magnifique, Michel s'enfuit sur le quai et prit le bateau pour Suresnes. Elle y arriva vers 9h30. Le rendez-vous était pour 10 heures. Elle s'en fut faire un tour sur les bords de la Seine, dans la direction de Saint-Cloud, sur le chemin de Halage. Puis elle regagna la ville, s'arrêta près du pont, au carrefour, et demanda à un agent la rue du Bac. Celui-ci lui répondit « Vous n'avez qu'à prendre devant vous le quai Gallieni et tourner ensuite à gauche. » C'est ce qu'elle fit. Elle ne remarqua pas, à l'angle du quai et de la rue, une conduite intérieure qui stationnait le long du trottoir. À l'intérieur de la voiture, deux hommes attendaient. C'était Jack Sorette et Henri de Préfaille, qui depuis un moment guettaient le passage de la jeune femme. Quand elle parut et après qu'elle se fut éloignée, Jack Sorette dit à Préfaille: Vous voyez que j'étais bien renseigné. Chaque soir, elle vient retrouver son amant à l'endroit où je vous ai dit. Mais afin de donner le change, elle fait un détour et regagne l'avenue de la Belle Gabrielle par la rue Diderot. Attendons donc quelques instants, et de là, vous pourrez filer avenue de la Belle Gabrielle. Vous êtes sûr de la rencontrer en galante compagnie. Préfaille ne répondit pas. En apercevant sa femme, il avait reçu un choc terrible. Sans oser se l'avouer à lui-même, il avait espéré jusqu'à la dernière minute que Michel ne viendrait pas et que par conséquent, il aurait tout lieu de penser que Sir Jack Sorette avait été dupé. Mais il n'en était rien, elle était venue, il l'avait vue de ses yeux. Aucune erreur n'était possible. C'était elle et c'était bien elle. Il lui sembla que tout s'effondrait en lui et qu'il n'allait plus avoir la force d'aller jusqu'au bout de l'atroce calvaire qu'il avait déjà commencé à gravir. Il lui semblait avoir laissé le meilleur de lui-même. Il demeurait prostré, anéanti, désarmé, vaincu par le sort. Mais Jack Sorette allait le ramener à la réalité. « Allons, dit-il, le moment décisif est venu. Il s'agit une fois pour toutes de montrer que vous avez du cran. Vous verrez ensuite que tout ira beaucoup mieux. Oui, je comprends que cette épreuve vous soit très pénible, mais elle est indispensable. Rappelez-vous ce que vous m'avez promis. « Oh, je m'en souviens, répliquait le comte Henri, qui ne voulant pas passer aux yeux de son compagnon, pour un homme sans volonté, sans courage, descendit brusquement de la voiture et se retournant, il fit « C'est bien 35 avenue de la Belle Gabrielle. » « Parfaitement, répliquait l'Américain. « Oui, la rue à gauche, en face de l'avenue des conférences. Allez, mon cher ami, je vous attends ici. » Monsieur de Préfaille se dirigea vers la maison dont le milliardaire lui avait donné l'adresse. Conformément aux instructions de ce dernier, il sonna et tout se passa comme l'avait dit l'Américain. Une femme de chambre s'en vint ouvrir. Préfaille lui dit qu'il venait apporter au prince Dimitri des papiers de famille. La femme de chambre le fit entrer dans le salon. Mais aussitôt qu'elle eut les talons tournés, le comte lui emboîta le pas, monta au premier étage. Il vit une porte entrebâillée, la poussa, pénétra dans une chambre et aperçut le sosie de sa femme qui s'appuyait tendrement et amoureusement sur l'épaule du prince. À sa vue, ainsi que cela avait été convenu, la fausse Michel se leva et se précipita dans la pièce voisine. Dimitri allait en faire autant, mais là, le scénario établi par Madame Merlou allait subir un certain changement. En effet, cédant à la fureur qui le galvanisait et bousculant la femme de chambre qui voulait se placer entre le russe et lui, Préfaille empoigna ce dernier par le bras et voulut le retenir. Mais Dimitri se débattit et s'arracha à l'étreinte du comte et il rejoignit sa complice dans la pièce voisine. Préfaille s'élança vers la porte dont Dimitri avait eu le temps de pousser le verrou intérieur, tandis que la camériste, qui sans doute elle aussi avait reçu des directives très précises, prenait le parti de s'évanouir sur le divan que l'instant d'auparavant occupait le prince Dimitri et la môme aux yeux bleus. Incapable de se maîtriser, de Préfaille se mit à donner des coups violents contre la porte. Se rendant compte que son attitude manquait de dignité et risquait de le couvrir de ridicule, il se calma et s'enfuit blême, décomposé, l'âme ravagée. Maintenant, il ne pouvait plus douter. La ruse infernale avait réussi. Il était convaincu de l'infidélité de sa femme, et rien n'allait pouvoir maintenant l'en dissuader. En effet, lorsqu'il revint à la voiture, sa première parole fut, en s'asseyant lourdement près de l'Américain, « Maintenant tout est fini. Oui, vous aviez raison. Allez, emmenez-moi vite, très vite, que je ne retrouve pas cette gueuse sur ma route, car je serai capable de faire un malheur. » L'Américain s'empressa de donner l'ordre à son chauffeur de repartir pour Paris. Pendant tout le trajet, M. de Préfailles demeura silencieux. En rentrant à l'hôtel, Jack Sorette lui demanda « Alors maintenant, que comptez-vous faire ?»« Je n'en sais rien encore. Je suis dans un tel état d'esprit qu'il me serait impossible de coudre deux idées ensemble et même d'en suivre une. Mais calmez-vous, tâchez de vous reposer un peu. Vous pensez bien qu'il me sera impossible de dormir. Et voulez-vous me permettre de vous donner un conseil ?» insinuait le milliardaire. « Oh oui, car j'en ai grand besoin. Bien sûr, j'étais à votre place. Je ne ferai savoir à personne que les Benassi m'ont remis en liberté. Je fabriquerai une nouvelle identité. J'incarnerai un nouveau personnage. Je supprimerai tout ce qui a été le passé. Ce sera le seul moyen, je vous assure, de conquérir la paix dont vous avez tant besoin. » « Mais c'est impossible, » répliquait le mari de Michel. « Impossible, mais pourquoi ? Je suis soupçonné, que dis-je, accusé d'avoir commis des indélicatesses. Je veux à tout prix éviter au nom que je porte un déshonneur immérité. » L'Américain observait. « Mais vous n'avez pas à redouter cela, puisque je vous ai promis de tout arranger. » « Oui, c'est juste. Donc votre objection tombe. J'en ai une autre à formuler. Je ne veux pas que Michel se figure que j'ignore sa trahison. Je veux au contraire qu'elle sache que je suis au courant de tout. « Soyez tranquille, » déclarait le Yankee. « Vous avez beau être camouflé, je suis sûr que tout à l'heure elle vous aura reconnu. Oui, c'est possible, mais je tiens essentiellement à ce qu'elle connaisse mes sentiments à son égard. » Ainsi que vous venez de me le dire, je vais redevenir un autre homme. Je vais m'efforcer d'oublier le passé. Prendre même un autre nom, si vous le jugez nécessaire. Mais je ne veux pas m'en aller sans avoir crié à cette misérable tout mon mépris et toute ma haine, car je la hais à présent, autant que je l'ai adorée. Et je ne veux point qu'elle ignore, non, je veux au contraire qu'elle sache que je n'emporte d'elle que le souvenir de la plus odieuse félonie, et que je la considère comme la plus lâche et la plus hypocrite des femmes. » L'Américain reprenait. « Oh, s'il vous plaît, de déverser ainsi votre bile, je n'y vois pas d'inconvénient, mais, par exemple, ce qu'il faut éviter, c'est de vous trouver en sa présence. Et pourquoi ? D'abord, parce que cela vous serait très pénible. Puis votre femme, d'après ce que je sais d'elle, doit être extrêmement rouée, et je craindrais pour vous qu'elle réussisse peut-être à vous influencer. » « Je l'en défie !» s'écria M. de Préfailles. « Mais vous avez raison. Mieux vaut ne pas nous rencontrer. Je pourrais n'être pas maître de mes réactions. Je préfère la laisser à sa honte. » « Très bien !» approuvait Jacques Sorette. Et il fit, en serrant la main de l'homme dont il venait de briser le bonheur, « Je suis très content de vous, très content. Vous allez voir que vous allez passer une bien meilleure nuit que vous ne le pensez. Allons, écrivez tout de suite votre lettre afin d'en être débarrassé. Demain, nous partirons de bonne heure. Je vais vous emmener faire une croisière à bord de mon yacht Nasica. Cela vous calmera les nerfs et vous remettra dans cet état de réceptivité dont vous avez besoin. pour étudier avec moi la grande affaire que nous allons lancer ensemble. Bonne nuit, mon cher ami. Plus que jamais, comptez sur moi. »
Sans se douter un seul instant du rôle ignominieux que Jacques Sorel avait joué dans cette affaire, et le considérant au contraire comme un ami tel qu'on en rencontre rarement, et peut-être même jamais, il lui serra cordialement la main et se retira dans sa chambre. Lorsqu'il fut parti, un sourire diabolique entr'ouvrit les lèvres de l'Américain.
« Allons, fit-il, oh, voilà une affaire qui me coûte en tout une douzaine de millions, mais je ne la regrette pas, car c'est de l'argent bien placé. Et maintenant, la belle Michel va pouvoir verser toutes ses larmes. Je n'aurais pas payé trop cher. »